Dans tout ce que nous racontons là, ce que nous voyons, ce que nous vous montrons, on est quand même très souvent dans les effets de quelque chose, dans les résultats de quelque chose. Mais à cela, à cette misère, à ces difficultés, il y a des causes. Et il faut évidemment s'efforcer de remonter aux causes. Souvent, on a oublié dans ce qu'on a raconté, que ce soit à Bruxelles, dans le Kivu, ou ici, dans le Katanga, le rôle des mouvements anticolonialistes. Belges, par exemple. Ils ont été nombreux et très, très vaillants au moment de la décolonisation dans les années 50-60 aux côtés des indépendantistes congolais. Et aujourd'hui, un mouvement comme le CADTM, le Comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, apporte aussi son aide et milite pour l'abolition de la dette du tiers-monde. Et on trouve des militants et de ce mouvement jusqu'à Lubumbashi. Là, on est à Bruxelles. Et voilà une explication supplémentaire de ce qui est très difficile pour nous à comprendre, ce que comprennent très très facilement en Afrique, qu'on comprend très facilement en Afrique ou en Amérique latine, le principe de la dette.
On n'imagine pas tout le pillage qui a été fait au détriment du peuple congolais et qui se perpétue encore aujourd'hui après l'indépendance entre guillemets du Congo en 1960, puisque on continue de piller les ressources naturelles du Congo et les Congolais ne tirent toujours pas profit, que ce soit des ressources comme l'or, le coltan, le cobalt, le cuivre, etc., etc. Et donc finalement on est aujourd'hui dans une situation néocoloniale où la domination a toujours lieu, et la domination elle est un peu plus invisible, mais elle se fait toujours via notamment des mécanismes comme la dette, puisque la dette, c'est un instrument de transfert des richesses du sud vers le nord, du Congo vers les pays occidentaux, mais c'est aussi un instrument de domination politique, puisque derrière chaque allègement de dette congolaise se cachent des conditionnalités, des politiques qui sont imposées par le FMI, par la Banque mondiale, par le Club de Paris, qui vise à privatiser le secteur des ressources naturelles.
Alors pour revenir à la question de la dette, qui est le principal instrument de l'emprise que peuvent avoir les institutions internationales sur la politique qui est menée en RDC, cette dette, elle était en partie contractée sous Mobutu, sous le précédent dictateur qui était l'allié, l'homme de main des puissances internationales, y compris les États-Unis.
Oui, il faut savoir que la dette qu'aujourd'hui les Congolais continuent de payer, c'est la dette héritée de la dictature de Mobutu. Donc c'est une dette qui, évidemment, n'a pas profité à la population. On sait très bien que Mobutu détournait systématiquement les prêts qui lui étaient octroyés par les métropoles occidentales, et les métropoles occidentales le savaient. Pourquoi ? Parce que c'était la période de la guerre froide et Mobutu était un rempart contre le bloc de l'Est, et donc il fallait soutenir Mobutu et ça passait par des prêts, et c'est ce qui a gonflé la dette du Congo. Et aujourd'hui, cette dette n'a pas été annulée comme elle aurait dû l'être, puisque c'est une dette qui répond clairement à une définition juridique en droit international qui est la doctrine de la dette odieuse. Donc la doctrine de la dette odieuse dit que si la dette a été contractée par une dictature sans bénéfice pour la population et avec la complicité des créanciers, c'est une dette odieuse. C'est le cas. Donc le Congo réunit les trois conditions. C'est une dette odieuse, donc une dette nulle en droit international et qui doit donc être annulée totalement et sans condition. Et pourtant, aujourd'hui, la dette continue à peser sur le social, sur la population congolaise, et elle n'a pas été annulée, contrairement à ce que certains médias le disent.
Dans un pays où il n'y a pas de route ou pas d'infrastructure.
Voilà. Exactement. Dans un pays qui manque de tout, eh bien, on va privilégier le remboursement de la dette. Ça, c'est non négociable. Et pourtant, les besoins humains, au niveau juridique, ont la priorité sur les obligations financières, sur les besoins des financiers. Ça, c'est là, je m'appuie pas uniquement sur la moralité, mais sur le droit international. Les États ont l'obligation de privilégier les besoins humains fondamentaux avant les obligations financières. Et on a bien vu, dans le cas du Congo, que ces obligations financières, finalement, elles ne sont pas valables, puisque on leur demande de rembourser une dette odieuse, une dette illégale.
Et ce sont souvent les mêmes pays qui sont intéressés à avoir accès aux ressources dont regorge le sous-sol congolais.
Exactement. Et on l'a bien vu avec la décision en 2009 de ce même Club de Paris. Donc, c'était opposé à un allègement de dette parce que le Congo avait décidé de revoir des contrats miniers. des contrats miniers qui liaient des pays comme le Canada et les États-Unis principalement. Et donc, le Canada et les États-Unis ont utilisé l'arme de la dette pour